La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Sri Lanka, l'île resplendissante, au large de l'océan Indien, entre l'Inde et les Maldives. C'est là que vit depuis 30 ans notre Belge du bout du monde, Patrick Van den Bruan. Bonjour Patrick.
Bonjour Adrien.
Ayobowan.
Ayubuan, Vanakan.
Vous êtes un ex-Zineke, hein, une grand-mère congolaise, un papa flamand, une maman francophone et vous avez grandi en Allemagne. Ça, c'est un beau melting pot.
Voilà, un citoyen du monde, j'espère.
Ouais. Et vous êtes devenu en 2006 coordinateur de l'aide au développement pour le Sri Lanka. Depuis que vous êtes sur place, d'ailleurs, depuis 30 ans, vous êtes actif, très actif d'ailleurs, très engagé dans l'humanitaire, Patrick.
Oui, tout à fait. Mais je suis arrivé un petit peu par hasard au Sri Lanka. Je pense y rester que maximum 2 ans. Et puis, j'ai joint Save the Children, une organisation humanitaire. Et puis voilà, de là, de fil en aiguille, 30 ans déjà. Ça passe vite.
Pour nous offrir un regard croisé sur le Sri Lanka, j'ai invité en studio une jeune femme qui a fait le chemin inverse. Bonjour Sandhya Samarawira.
Bonjour.
Ayubowan.
Ayubowan.
Vous êtes née là-bas où se trouve Patrick.
Oui, exact. Oui.
Dans quelle région?
Ratmalane.
C'est la banlieue de Colombo.
De Colombo, oui. Ouais.
Et vous êtes arrivée en Belgique au moment où Patrick a quitté le pays, il y a 30 ans.
Oui. Oui, en 83. Oui.
Mais vous travaillez à Bruxelles?
Oui, je travaille à l'ambassade de Tanzanie.
Ah ben dis donc, on est vraiment dans les citoyens du monde. Hein. Une Sri Lankaise qui travaille à Bruxelles, à l'ambassade de Tanzanie, ça ne s'invente pas. Alors pour nous présenter le Sri Lanka, nous pourrons aussi compter sur les connaissances encyclopédiques de nos trois chroniqueuses. Maud Steinbach, Catherine Tonero et Maria Mallard qui ont toutes les trois un point commun. Elles sont toutes les trois lauréates de la Belge Odyssée, hein, je ne me trompe pas. Oui. Nous allons commencer par vous Maud. Vous venez de rentrer du Sri Lanka et vous êtes conquise.
Alors conquise, donc j'ai fait un voyage là-bas de un mois sac à dos, conquise par les Sri Lankais qui sont très chaleureux, par les paysages, donc on peut avoir des paysages sur la plage des îles paradisiaques, on peut être dans la montagne et il peut faire humide, et puis on peut avoir des paysages qui ressemblent beaucoup à une espèce de savane africaine, on va dire, et puis la nourriture, les épices, les odeurs.
On sent que vous aimez, Catherine Tonero, ce sera votre prochain voyage.
Mais je l'espère bien, en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette émission en découvrant ce pays que je connaissais très peu. Et je pense que ça ne saurait tarder. Le Sri Lanka, sûrement la prochaine destination du bout du monde pour moi.
Maria Mallard, un petit thé de Ceylan ce matin peut-être?
Oui, ce matin je vais vous parler donc des cueilleuses de thé qui vivent dans des conditions assez difficiles et donc d'une ONG qui les aide à être plus indépendantes.
Oui, dans l'ex-Ceylan, donc ce sera excellent ce matin, les Belges du bout du monde jusqu'à 10h sur la première.
Les Belges du bout du monde, Adrien Jovenot.
Patrick, vous avez quitté notre pays quand nous avons commencé à faire cette émission en 1986. J'espère que je ne vous ai pas fait fuir, Patrick.
Ah non, j'ai bien remarqué que 30 ans, c'est l'anniversaire aussi des Belges du bout du monde. Donc, je suis enchanté d'être sur l'émission en ce moment. Mais comme je disais, c'était un petit peu par hasard. J'ai travaillé un petit peu pour la Fondation universitaire luxembourgeoise qui est à Arlon. Et j'avais fait une petite étude sur de rivières. Vous savez que Virton s'appelle Virton parce que c'est la confluence de la Vire et du Ton. Et après avoir fait une étude de ces rivières, ben, on m'a dit, tiens, il faudrait faire une étude de rivières au Sri Lanka. Et je n'ai pas hésité. J'ai dit, ben oui, de suite. Et oui, d'accord.
Et c'était voilà. En 1986, vous êtes parti comme volontaire pour la coopération belge. Vous avez d'abord travaillé dans le développement communautaire d'un village de pêcheurs près de Negombo. C'est où ça, Negombo, Patrick?
Alors, Negombo, c'est pas très loin de Colombo, au nord de Colombo, sur la côte ouest. Mais en fait, avant d'arriver à Negombo, je suis resté dans la montagne pendant quelques mois à étudier les cours d'eau et voir si on pouvait réintroduire la truite. Bon, on a la truite en Ardennes. Les Britanniques avaient introduit la truite au Sri Lanka. Et pendant quelques mois, j'ai eu l'occasion de faire une étude avec un chauffeur, une vieille Land Rover, et de me bourlinguer dans la montagne sri-lankaise.
Une vieille voiture, ça aurait pu être une voiture belge. Hein. Je crois, Sandia, que les Belges ont construit une voiture au Sri Lanka il y a un siècle. Il y avait une usine belge.
Oui, je pense, oui. Oui. Ça s'appelle Pipe, je pense.
Oui, la Pipe.
Il y a un Sri Lankais qui a cette voiture.
Oui.
Il est marié avec une Belge.
Ouais, nous avons d'ailleurs mis en ligne quelques images de cette Pipe. C'est une voiture, hein, je précise. Alors, vous avez aussi une ligne de chemin de fer construite par les Belges hein, au Sri Lanka. Donc, les Belges ont été très, très actifs. Avant d'aller plus loin dans votre interview à tous les deux, on va planter le décor avec vous, Catherine Tonero. Le Sri Lanka est deux fois plus grand que la Belgique. Il est aussi deux fois plus peuplé.
On dirait une goutte d'eau tombée de l'Inde, on l'appelle la larme de Bouddha. Le Sri Lanka est un état insulaire de l'océan Indien, situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de son énorme voisin. Sri Lanka veut dire île resplendissante en singalais, une île de plus de 65 000 kilomètres carrés, appelée Ceylan durant des siècles. Son histoire est faite d'un long passé colonial. Depuis le 16e, le Sri Lanka a été sous le contrôle du Portugal, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne, un mouvement nationaliste né début du 20e. Il aboutira à l'indépendance du pays en 1948.
Oui, tout jeune pays. Donc le Sri Lanka est aujourd'hui une république peuplée d'environ 20 millions d'habitants.
Et les trois quarts sont singalais et bouddhistes. Les Tamouls représentent, eux, la principale minorité hindouiste. Ce sont aussi les deux langues officielles du pays auxquelles il faut ajouter l'anglais comme langue de communication courante. Un pays d'une grande diversité culturelle, donc, qui a connu une longue guerre civile. C'est une guerre qui découle de tensions de longue date hein, entre ces deux communautés. Elles vont se renforcée suite à l'adoption dans les années 70 d'une nouvelle constitution. C'est elle qui rebaptise le pays Sri Lanka, déplace la capitale de Colombo à côté, définit un nouveau drapeau et surtout marque une discrimination croissante au détriment de la minorité tamoule.
Oui, c'est vrai qu'il y a deux langues nationales très utilisées au Sri Lanka, le tamoul et le singalais. Vous parlez plutôt singalais, Sandia ?
Oui.
Oui. Oui. Si vous me donnez nous un petit cours de singalais, comment dit-on, comment allez-vous ? D'accord, ok, c'est noté, c'est noté. Et moi, je vais vous répondre Yanawa. On y va, go.
Ça
va? Yanawa. Yanawa. Mm-hmm. Très très bien. Vous parlez aussi singalais, vous parlez anglais. C'est quoi la langue des affaires et de l'humanitaire là-bas, Patrick?
Bien, la langue de travail, c'est l'anglais. Mais bien sûr, quand on travaille dans les villages, il faut se débrouiller en singalais ou bien en tamoul. Mon singalais est relativement convenable. J'ai appris un petit peu le tamoul, qui est une langue plus difficile à apprendre. Mais on se débrouille. Il y a quand même une grande majorité de personnes qui parlent anglais, heureusement.
Alors, on ne peut pas évoquer le Sri Lanka sans faire allusion, évidemment, au tsunami de fin 2004 qui a détruit le littoral oriental de l'île, faisant plusieurs dizaines de milliers de victimes et laissant plus de 100 000 personnes sans abri. Vous étiez sur place, vous étiez sur l'île à ce moment-là, Patrick ?
Oui, tout à fait. Nous étions ici à Colombo. Heureusement, j'avais renoncé à aller faire de la plongée ce jour-là. Comme vous le disiez, énormément de personnes ont été touchées. Nous avons plus de 35 000 personnes qui ont malheureusement perdu leur vie. Et aussi la catastrophe ferroviaire la plus importante de l'histoire de l'humanité, puisque 1200 personnes ont péri lorsque le train qui se dirigeait vers le sud a été touché par le tsunami.
Oui. Vous participez à la reconstruction du pays. Je crois qu'il y a beaucoup d'énergie. Le pays vraiment s'est redéveloppé depuis une dizaine d'années, Patrick.
Après le tsunami, toute la population locale, singalaise, tamoule, musulmane, tout le monde vraiment s'est aidé, s'est entraidé. C'était vraiment une période extraordinaire. Nous avons reçu énormément d'assistance du monde entier, dont de la Belgique d'ailleurs. Nous avons eu un contingent militaire belge qui est venu. Ils se sont dirigés dans le sud, ils ont construit des maisons, ils ont fait vraiment du très très bon travail à l'époque avec beaucoup d'autres pays, les Américains, les Pakistanais, etc.
Et je signale que vous êtes devenu, depuis 2006, deux ans après ce tsunami, coordinateur de l'aide au développement pour le Sri Lanka, parce qu'il y a de l'aide qui vient de tous les pays du monde. Et c'est vous qui vous occupez un peu de la coordination. Chapeau, Patrick. Alors, on va continuer dans une ambiance de zénitude absolue grâce à cette balade signée Laurent Voulzy sur la première.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde ? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
C'est lent, évoqué par Laurent Voulzy dans cette chanson de 1986. Ah, il n'y a pas de hasard, c'est l'année de départ de Patrick Van Den Bruan, notre Belge du bout du monde pour le Sri Lanka, qu'on appelait autrefois C'est lent.
Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur la première, Adrien Jovenot.
Il y a d'étranges coïncidences dans cette émission, Patrick. L'un des anciens noms du Sri Lanka, Serendib. Ça veut dire quoi, Serendib ?
Alors, Serendib, c'est un ancien nom du Sri Lanka. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un terme qu'on utilise en français qui s'appelle sérendipité. Ou serendipity en anglais, qui est la découverte scientifique ou une invention technique de façon inattendue, suite à un concours de circonstances. C'est un petit peu la pomme de Newton, si vous voulez. Moi, dans mon cas, ça a été la noix de coco qui m'est tombée sur la tête à l'époque.
D'accord, donc c'est un pays dangereux quand il n'y a pas de tsunami ou de guerre civile. Il y a des noix de coco qui tombent, mais vous en êtes remis, Patrick. C'est arrivé quelques semaines, quelques mois après votre arrivée ?
Tout à fait, oui. Je me suis rendu d'ailleurs à Trincomalee. Il y a un cimetière intéressant à Trincomalee, un vieux cimetière avec les anciens explorateurs qui sont arrivés au Sri Lanka il y a bien longtemps. Et sur leur tombe, on peut lire leurs épitaphes. Il est mort du scorbut, ou il est mort en se battant avec les pirates. Et je pensais, oh, j'ai vraiment échappé parce qu'on aurait pu lire mon épitaphe. Il est mort d'une noix de coco, ce qui aurait été peu glorieux, en effet.
Oui, oui, oui. Surtout qu'un mois après votre arrivée, une bombe explose près de vous et fait 9 morts. Un an après, la foule prend d'assaut votre voiture qu'elle confond avec un véhicule du gouvernement. L'armée ouvre le feu et vous conduisez les blessés à l'hôpital. Donc, vous n'avez pas échappé à des situations quand même relativement tendues et dangereuses. Et ça aurait été dommage d'être assommé bêtement par une noix de coco. Vous avez un parcours personnel étonnant. Patrick, vous êtes né à Skotten, près de Anvers. Vous avez vécu en Allemagne, vous êtes fils de militaire, puis à Liège. Votre grand-père maternel était commissaire de district au Congo. Vous avez donc une grand-mère maternelle congolaise. Et au départ, vous vouliez partir au Congo, mais l'amour s'en est mêlé. Une jolie Sri Lankaise a déjoué vos plans.
Tout à fait, oui, oui. Et j'ai rencontré mon épouse en 87 déjà, je suis arrivé en 86, et ça n'a pas duré trop longtemps pour que je la trouve. Et voilà, après 13 ans de vie commune, finalement, en lui demandant de façon répétée si elle voulait m'épouser en 2001, finalement, elle a dit oui. Et donc, nous nous sommes mariés en 2001.
C'est une belle histoire d'amour en ce jour de la Saint-Valentin. Félicitations. Vous êtes, vous, arrivé dans quelles circonstances, Sandia, en Belgique ? Qu'est-ce qui fait que vous avez quitté votre pays natal pour arriver chez nous à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe ?
Depuis tout petit, je voulais venir en Europe. Alors, j'avais l'occasion parce que mon oncle travaillait à l'ambassade de Sri Lanka, à Bruxelles. Alors, je suis venue pour travailler pour 3 mois. Pendant 3 mois à l'ambassade. Et puis, j'ai trouvé cette place à l'ambassade de Tanzanie.
Et je suis restée. Et ça fait 33 ans.
Et j'ai rencontré mon mari ici. Et il est Sri Lankais, mais je l'ai rencontré ici, en Belgique.
Ah ben c'est aussi une histoire d'amour pour la Saint-Valentin. C'est bien,
oui.
Ça. C'est bien.
Alors, on s'est mariés en 85 et on est toujours là.
Oui, et d'ailleurs, on salue votre fille qui est à côté de notre ingénieur du son, de l'autre côté de la vitre, et oui. Qui assiste à cette émission. Elle s'appelle ?
Sanchara.
Vous avez d'autres enfants ?
Oui, j'ai un fils qui a 29 ans.
Et visiblement, vous êtes tous très bien intégrés. Ça a été facile de faire son trou en Belgique, de s'habituer à notre pays un peu spécial ?
Oui, au début, c'était un peu difficile de quitter le pays et... Mais on s'est habitué.
Vous n'êtes pas jaloux quand vous entendez Patrick nous parler du Sri Lanka? Vous ne dites pas « Oh là là, j'aimerais bien être à sa place ».
Oui, un peu.
Et bien sûr, Adrien, le bout du monde, c'est aussi la Belgique pour Sandia.
Oui.
Et oui, c'est une Belge qui vient du bout du monde.
Oui.
Tout est relatif. Hein. C'est vrai que ça dépend de quel côté de la planète on se trouve. Vous saviez depuis votre adolescence que vous n'alliez pas faire long feu en Belgique, Patrick? C'était vraiment un rêve de gosse là, que vous avez réalisé?
Oui, véritablement, je savais que j'allais partir. Après mes études, j'ai bourlingué un petit peu en Asie. Je me suis retrouvé en Chine, ou d'ailleurs dans l'île de Hainan, dans le sud de la Chine, qui était à l'époque une zone non ouverte aux étrangers, mais où j'ai rencontré un jeune soldat chinois qui m'a accueilli dans sa famille. Et pas seulement dans la famille, d'ailleurs, les autorités locales étaient très contentes d'avoir un étranger, malgré que ce ne soit pas autorisé, et m'avaient proposé de rester à Hainan Island, en Chine, pour enseigner l'anglais. Mais je n'y suis pas resté, j'ai bourlingué un petit peu en Chine, et puis je suis quand même retourné en Belgique avant de repartir au Sri Lanka, et pour cela, j'ai pris le train, le Transsibérien, qui était aussi une expérience bien intéressante, entre Pékin, Beijing et jusqu'à Berlin, en passant par la Mongolie.
Et quel bourlingueur! C'est bien, c'est un peu le cas de Catherine Tenereau, hein, qui, dès qu'elle a quelques semaines de congé, hop là, prend la poudre d'escampette et voyage. C'est aussi une bourlingueuse que nous avons la chance d'accueillir le dimanche matin dans cette émission. Catherine, on va se pencher un peu sur l'histoire du Sri Lanka, une histoire récente marquée, on l'a dit, par le tsunami, mais aussi par la guerre civile qui a éclaté en 1983.
Oui, lorsque l'organisation indépendantiste des Tigres Tamouls, hein, comme on l'appelle, attaque une unité de l'armée. 13 soldats sri-lankais sont tués. En représailles, des groupes de civils singalais vont multiplier les meurtres, pillages et incendies contre la minorité tamoule. Les autorités ferment les yeux. C'est le début de 25 ans de conflit ponctué par de nombreux attentats suicides des Tigres. Toutes les tentatives de paix entreprises sous l'égide de l'Inde ou des puissances occidentales vont échouer. En 2009, une opération de l'armée sri-lankaise des plus meurtrières finit par défaire la rébellion tamoule dans le nord du pays. Cela marque la fin officielle de ce conflit et qui a fait entre 80 et 100 000 morts et plus de 260 000 déplacés selon l'ONU.
La fin de la guerre civile a par ailleurs favorisé une forte croissance économique dans le pays.
Oui, l'économie sri-lankaise est aujourd'hui très dynamique. Les investissements sont soutenus par la création d'infrastructures qui avaient longtemps été négligées pendant le conflit. Et puis le tourisme est devenu une activité moteur. Le Sri Lanka, il faut le dire, regorge de trésors entre ses plages de sable et montagnes luxuriante, ces cités anciennes, danses traditionnelles et processions d'éléphants, une nature magnifique et grande richesse culturelle et qui attire de plus en plus de touristes chaque année.
Dont Maud Stenbach qui vient de rentrer du Sri Lanka. Votre bon plan en 30 secondes, vous diriez à nos auditeurs d'aller dans quel coin, de faire quoi, Maud?
Mais tout, parce qu'au Sri Lanka, on peut tout voir. On peut voir, sur la côte est, il y a des plages magnifiques qui sont encore assez vierges. Il y a des paysages paradisiaques vraiment magnifiques. Après, il y a le centre du pays, c'est beaucoup plus montagneux, c'est beaucoup plus humide, c'est très vert avec beaucoup de plantations de thé. Et puis, le nord du pays ressemble, il y a une terre couleur rouge vive avec beaucoup de singes, avec des herbes hautes. Ça fait un peu plus penser peut-être au paysage de l'Afrique. Donc, il y a de tout, ça plaît, ça peut plaire à tout le monde.
Oui, ça vous fait plaisir d'entendre parler ainsi de votre pays, Sandia?
Oui, bien sûr. Oui.
On y retournerait.
Oui. Oui, oui, et nous on y retourne en tout cas, ça je vous le promets. Après la pub, le Sri Lanka dans les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h ce matin.
9h, 10h,
les Belges du bout du monde sur la première,
avec Adrien Jouvenot.
Merci de faire confiance à la première pour vous réveiller, vous informer, vous évader ce matin. À 10h, Alain Gerlache décodera l'actualité de la semaine écoulée. Et d'ici là, ce sont les Belges du bout du monde qui vous font voyager avec nos chroniqueuses Maud Stenbach, Catherine Tenereau et Maria Mallard. Nous sommes en Asie du Sud, chez Patrick Vandenbruan, coordinateur de l'aide au développement pour le Sri Lanka.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Tout est possible au Sri Lanka, le meilleur et le pire, de façon inattendue. Et je crois que tout peut basculer, tout peut changer très très vite, Patrick. Vous en avez eu l'expérience plusieurs fois depuis ces 30 dernières années.
Tout à fait, oui. Tout est très hot, tout est très intense ici au Sri Lanka.
Comme la cuisine.
La cuisine est hot,
Le climat.
la température, le climat. Nous avons pour le moment plus ou moins 32 à 34 degrés. C'est la période la plus chaude de février-mars. Les Sri Lankais ont un petit peu le sang chaud aussi. Tout bouge très vite. Mais aussi, comme Catherine le disait, au point de vue économique, maintenant que la guerre est terminée, nous avons un processus de réconciliation. Nous avons une croissance économique de plus ou moins 5-6%, qui est quand même extraordinaire. Donc, vraiment, un pronostic assez positif.
Alors, en 30 ans, vous avez vécu plein d'expériences professionnelles différentes. Vous avez travaillé comme coordinateur de l'aide au développement pour le pays. Vous avez été conseiller humanitaire pour les Nations Unies. Vous avez travaillé pour l'organisation britannique Save the Children. Et finalement, il vous arrivait de faire des trucs très différents, comme organiser des convois humanitaires, traverser des no man's land, installer des chaînes de froid pour conserver des vaccins. Vous avez fait des trucs incroyables, Patrick, parfois avec du système D.
Tout à fait. Dans les zones de conflit, bien sûr, il n'y avait pas d'électricité. Donc, vous savez que les vaccins doivent être gardés au frais. Donc, nous avions reçu des frigos solaires que nous avons installés dans les différents hôpitaux. Et il faut toujours garder ce qu'on appelle la chaîne froide. Il faut que les vaccins, on les met dans des petites boîtes frigorifiques et portables et être bien sûr, bien s'assurer qu'ils restent toujours au frais. Mais aussi, nous nous sommes occupés de la maintenance de camps pour les personnes déplacées, dont un camp assez...
Ah, ça, c'est du téléphone, du bruit de téléphone comme on n'a même plus chez nous. Ça. J'aime bien entendre ce téléphone. ça change des sonneries de smartphone. Hein. Ça fait du bien.
Oui, ça, c'est pas l'empêcher. Alors, j'en reviens à... un camp qu'on a installé à Jaffna, dans la ville du nord, la ville la plus au nord du Sri Lanka, dans la gare principale. Donc, les plateformes sont devenues des endroits où nous avons bâti des huttes. Il n'y avait plus de rails, plus de traverses de chemin de fer, parce que tout ça a été enlevé par les tigres tamouls pour en faire des bunkers. Et nous avons utilisé les endroits où il y avait les voies ferrées pour en faire des jardins, pour que les personnes déplacées puissent cultiver quand même leurs fruits, leurs légumes et s'en tirer, non seulement pour avoir des denrées alimentaires, mais aussi au point de vue sentimental, avoir une petite activité durant cette période difficile.
Oui, c'est sûr. Alors, le Sri Lankais est très imaginatif et parfois vous avez vécu des situations cocasses. Vous voyez souvent passer sur la ligne de combat et à travers le No Man's Land, un agriculteur avec une vache, et vous vous demandiez un petit peu ce qu'il trafiquait, mais en fait, il cachait des choses assez particulières dans un endroit assez particulier de la vache.
Oui, en fait, durant ces années, il y avait des restrictions, bien sûr, sur les armes, mais non seulement les armes, aussi même les piles qui pouvaient être utilisées pour des appareils explosifs, etc. Et donc, ce paysan passait régulièrement avec sa vache et traversait les lignes des tigres tamouls et l'armée sri-lankaise, ce qu'on appelle le No Man's Land, jusqu'au jour où un sergent l'a arrêté. Et on a découvert qu'en fait, ce fermier futé faisait de la contrebande de piles en truffant sa vache de piles. Et je suppose que la vache avait peut-être une démarche bien particulière. D'accord. Et il s'est fait avoir.
Voilà. Restez branchés sur la première. Où vivez-vous, Patrick, aujourd'hui? Vous êtes dans l'ancienne capitale, Colombo, ou bien vous êtes dans un endroit un peu plus reculé?
Alors, nous vivons ici à Colombo, et à Colombo 6, qui n'est pas très loin de l'endroit où Sandhya vit. Hein, elle vit à Ratmanana, qui est au sud de Colombo. Donc, nous sommes presque voisins. Et nous avons aussi une vieille demeure que nous avons retapée et qui est dans le sud, près de Bentota, un très, très bel endroit, qui n'est pas très loin de l'endroit dont la famille de mon épouse est originaire.
Indrani, hein, votre épouse?
Indrani, alors Indrani, si je suis correct, Indra dans les langages anciens en sanskrit veut dire soleil, Et Ni veut dire reine. Reine du soleil, c'est un nom qui m'a bien sûr beaucoup attiré.
Oh, pas mal. Nous sommes le 14 février. Est-ce qu'on fête la Saint-Valentin au Sri Lanka aussi? Vous allez fêter ça? Ou vous avez fêté ça peut-être déjà avec Indrina?
La Saint-Valentin au Sri Lanka, c'est très important. Comme Catherine, Maud et Marianne expliquaient, nous avons des populations singalaises, tamoules. On a aussi des burghères, les burghères qui sont des descendants des personnes hollandaises et des portugais. Et nous avons en fait plus d'une vingtaine d'ethnies représentées, de groupes ethniques représentés au Sri Lanka. Et nous bénéficions de toutes leurs traditions, toutes les fêtes. Nous avons les fêtes bouddhistes, hindous, musulmanes, mais aussi la Saint-Valentin. Et je pense que nous sommes le pays au monde, probablement avec le plus grand nombre de congés annuels.
C'est pas mal d'avoir plusieurs calendriers, comme ça on peut fêter toutes les occasions possibles. On va partir maintenant à la pêche aux initiatives positives avec vous, Maria Mallard. Cette semaine, vous nous emmenez à la rencontre de cueilleuses de thé qui s'émancipent de plus en plus grâce à l'aide d'une ONG, la Palm Foundation.
Oui, alors plantons le décor. Vous le savez peut-être, le Sri Lanka est l'île du thé. C'est l'un des piliers de son économie. D'ailleurs, le pays est le deuxième plus grand exportateur de thé juste derrière l'Inde. L'exploitation du thé a commencé avec l'arrivée des Anglais sur l'île. Pour le cultiver, ils ont fait appel aux populations du sud de l'Inde, les Tamouls. Résultat, aujourd'hui, plus de 85% des ouvriers agricoles sont des Tamouls d'origine indienne, des descendants des populations déplacées dans les plantations. Et le thé est cueilli en grande majorité par les femmes. Les Tamouls indiens étaient forcés de vivre sur place, dans les plantations, dans des conditions de vie plutôt alarmantes. L'accès à l'éducation, à la santé, à la protection sociale était limité. Et aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup changé.
Mais j'imagine que si vous nous parlez de la Palm Foundation, c'est qu'il y a quand même du positif.
Oui, ça bouge beaucoup dans les plantations. Au Sri Lanka, beaucoup d'ONG mettent la main à la pâte pour améliorer la situation. C'est le cas notamment de l'ONG Palm Foundation, l'un de ses objectifs principaux est de donner aux femmes un vrai pouvoir de décision, qu'elles puissent prendre en main leur vie, leur famille et devenir indépendantes.
Ça, ce sont de beaux objectifs, mais concrètement, comment y arrive-t-on? Qu'est-ce qui est mis en place pour tout ça?
Eh bien, l'ONG propose des formations, mais surtout du soutien aux femmes. On leur donne des cours de management, de leadership, on les aide à prendre la parole en public. Elles apprennent aussi à faire du compost, mais surtout à vendre. De cette manière, elles arrivent à obtenir un prix juste pour leurs marchandises. C'est souvent de petits progrès de ce genre qui entraînent des effets positifs en cascade. Par exemple, en vendant plus cher leurs marchandises, elles augmentent leurs revenus. Elles sont alors capables de subvenir aux besoins de la famille, d'avoir 3 repas par jour, mais aussi d'envoyer leurs enfants à l'école.
Et l'ONG ne travaille pas que sur le leadership des femmes, j'imagine qu'il y a d'autres projets.
Elle a beaucoup de projets qui visent à améliorer les installations sanitaires, mais aussi l'accès à la santé. Un tas de projets qui visent à développer les conditions de vie de ces cueilleuses de thé, mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans les plantations.
Très bien. Est-ce que les femmes sont mieux considérées dans votre pays ?
Vous savez, le Sri Lanka est le premier pays au monde qui a eu une femme comme Premier ministre.
Ah bah oui.
Nous avons aussi eu sa fille qui est devenue la présidente. Donc nous avons des personnes féminines, des figures politiques bien importantes.
Alors moi, je vais vous en présenter une de femme qui est extraordinaire. Elle s'appelle, attention, Matangi Maya Arul Pragasam. Elle est mieux connue sous son nom de scène, Mia. C'est une chanteuse, auteure, compositeur, interprète, peintre et réalisatrice de cinéma. Elle vient de sortir un album magnifique qui s'appelle Matadata. On en écoute un extrait ce matin sur la première, Borders.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Tiré de son très bel album Matadata, c'était Mia sur la première. La chanteuse Mia, dont les initiales signifient Missing in Action, portée disparue, hein, langage des militaires là-bas. Mia est une chanteuse tamoule, engagée. Pour la petite histoire, c'est la fille d'un activiste indépendantiste tamoul. Elle est assez controversée hein, au Sri Lanka. Mia, très populaire, vous l'avez deviné, dans les milieux indépendantistes surtout. Alors nous sommes au Sri Lanka jusqu'à 10h chez Patrick Van Den Bruan, qui est le coordinateur de l'aide au développement pour ce pays étonnant. Une véritable mosaïque ethnique, sociale et religieuse.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Dernière ligne droite avec notre Belge du bout du monde, Patrick, sur place, qui a pu, en quelques années, d'aide humanitaire, être témoin d'un grand élan de générosité nationale, internationale. Et les Belges n'ont pas été en reste pour aider le Sri Lanka, Patrick.
La générosité belge s'est exprimée ici au Sri Lanka, comme dans beaucoup de pays, et au sein de la communauté des bailleurs de fonds qui fournissent l'aide au développement. La Belgique aussi continue de jouer un rôle important.
Votre maison d'ailleurs a été à Colombo le centre opérationnel d'aide humanitaire avec des volontaires de toutes nationalités. Je crois qu'avec votre épouse Indrani, vous vous êtes organisé pour accueillir un maximum de personnes.
Tout le monde s'est organisé et nous avons transformé notre maison en un centre d'aide d'urgence. Donc les camions venaient et partaient de notre garage. Nous avions une équipe d'une vingtaine d'expatriés de toutes nationalités. Nous avions des Japonais, des Anglais, des Américains, des Belges. Tous se sont mis ensemble pour emballer l'aide d'urgence que nous avons envoyée dans les camps directement après le tsunami.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait des tonnes de médicaments qui arrivaient avec des notices parfois en allemand que les Sri Lankais ne savaient pas déchiffrer. Évidemment, il fallait tout convertir. C'était un vrai boulot, mais vous l'avez fait avec la communauté internationale sur place. Maud Stenbach, vous rentrez du Sri Lanka, vous avez croisé à Colombo et ailleurs sur l'île plein de Belges actifs dans des secteurs différents.
D'abord, juste pour la petite anecdote, j'étais à Trincomalee, qui est sur la côte est, et puis j'ai reçu un mail de l'ambassade qui m'a dit « il y a une réunion d'expats belges, voilà, il faut absolument que vous veniez si vous voulez rencontrer des Belges ». Donc je suis arrivée à cette réunion, et là, voilà, j'ai rencontré énormément d'expats, et c'était assez comique et assez cliché, parce qu'il y avait du waterzooie, des croquettes aux crevettes, il y avait du fromage, il y avait de la bière, il y avait des frites et de la mayonnaise, et j'ai pu être accueillie par Yeroun, qui est un jeune gantois qui maintenant s'occupe d'une activité touristique, donc il emmène les touristes aller voir faire du whale watching, comme on appelle ça, aller voir les baleines. J'ai pu être accueillie par Marnix Geisen aussi, qui a le Imagine Villa Hotel, qui est bien implanté aussi là-bas au Sri Lanka. Le consul, Pierre Pringuier, m'a pris aussi une après-midi pour m'expliquer un petit peu la situation après le tsunami, ce qu'il fait là-bas sur place. Il a quelques activités philanthropiques aussi. Donc, beaucoup de Belges qui sont éparpillés un peu partout. Donc, c'était assez difficile de tous les retrouver, mais qui, voilà, avec grande joie, se retrouvaient pour cette réunion d'expats avec des frites et de la mayonnaise. Ils étaient heureux.
Et pourtant, la cuisine, la gastronomie sri lankaise, elle est réputée, on mange très très bien dans votre pays.
Au Sri Lanka, il faut s'habituer. Je dois dire que quand j'étais en Belgique, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je mangerais du poisson au curry au petit déjeuner. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive.
Pourquoi pas? Allez, c'est dimanche aujourd'hui. Quand vous aurez bien fêté la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous allez faire après, Patrick?
Ah, ben Adrien, il faut que je dise, la Saint-Valentin, ça va être un jour un peu spécial pour nous ici, parce que nous avons un duathlon qui est une course à pied de 5 km, suivie d'une course cycliste de 25 km. C'est un petit peu le Ravel de Colombo. Et après ça, à nouveau, une autre course à pied de 5 km. Donc ça se passe le jour de la Saint-Valentin. On démarre le matin à 6h, quand il fait encore frais. Et donc ça, c'est le programme de départ. Et j'espère qu'une fois de retour à la maison, j'aurai toujours l'énergie de souhaiter un heureux Saint-Valentin à mon épouse.
Ah ben c'est sûr, en plus vous aurez du cœur, là c'est sûr, pour faire toutes ces épreuves impeccables. Vous êtes, on l'entend, un sportif, vous faites de la plongée, du mountain bike, il faut dire là, c'est pas le plat pays, c'est très vallonné. Ça culmine à quelle altitude le Sri Lanka, Patrick?
Ah, ben le Sri Lanka, la montagne la plus haute, qui s'appelle Pituru Dalagala, c'est un petit peu un nom...
Notre baraque de fraîture, oui.
Voilà, c'est s'élève à 2500 mètres.
Ah, quand 2500. Même, quand même, oui, quand oui. Même. Ouais. Alors, vous êtes liégeois d'origine, même si vous avez fait vos études à Hatt. Qu'est-ce qui vous manque de plus par rapport à votre pays natal, à part les boulettes chez le quai, Patrick?
Ah, les boulettes chez le quai, oui, ça manque parfois. Heureusement, on rentre en Belgique au moins une fois par an, hein, une fois par an. Et le 15 août à Liège, en Outremeuse, ça c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup. Mais j'ai aussi étudié à Tournai et qui, je pense, est un coin que vous connaissez bien, Adrien.
Ah, on ne peut rien vous cacher, on ne peut rien vous cacher, Patrick. Les Tournaisiens seront là. Et j'en profite, hein, puisque vous avez parlé du Ravel, pour signaler à nos éditeurs que nous y serons le 2 juillet 2016, le samedi 2 juillet, pour un beau vélo exceptionnel dans la première capitale de l'Occident, la bonne ville de Tournai. Allez, on retourne au Sri Lanka. Quelles sont les perspectives, Catherine Tonero, pour ce pays qui doit vaincre ces démons du passé?
Oui, c'est le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui lance cet appel au pays qu'il vient de visiter. Il l'exhorte à créer des institutions qui fonctionnent, un système judiciaire fort et impartial, à mieux lutter contre l'impunité aussi. 7 ans après la fin de la guerre civile, un récent rapport de l'ONU pointe les crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés par les deux parties durant ce conflit. L'organisation veut la création d'une cour spéciale pour les juger. Alors, le nouveau président du Sri Lanka est en place depuis un an maintenant. Il a amorcé une transition politique et un vaste programme de réformes salué. Il y a eu beaucoup de progrès, hein. Le pays est en pleine croissance, on en a parlé, mais la situation reste difficile dans le nord-est du pays, là où vit la minorité tamoule. La question des droits de l'homme y est toujours sensible. C'est le principal défi qui attend le Sri Lanka, celui d'une réconciliation nationale durable.
Oui, entre les différentes ethnies, hein, il y en a une vingtaine dans le pays, rien n'est simple, mais c'est un pays plein de potentiel. Le plus dur est passé. Vous êtes optimiste, vous, pour l'avenir du Sri Lanka?
Tout à fait, Adrien. Je suis optimiste. Nous avons maintenant un nouveau gouvernement en place, un gouvernement qui veut promouvoir la réconciliation, le développement économique, qui veut aider les personnes qui ont été touchées principalement dans le nord et dans l'est du pays, les populations tamoules qui ont été touchées très directement par ce conflit. Et donc je suis assez optimiste. Le tourisme, oui. L'un des défis, l'un des challenges, comme on dit ici, c'est bien sûr d'essayer de promouvoir un tourisme de qualité et d'éviter d'avoir simplement un nombre exagéré, je vais dire, ou un nombre trop grand de touristes pour l'infrastructure. L'infrastructure est en train de se développer. Mais il faut que ce qu'on appelle whale watching, aller voir les baleines, il ne faut pas que ça devienne whale chasing, chasser les baleines, parce que parfois on essaye d'amener les touristes trop près des baleines, ou bien aussi la conservation du wildlife, la vie sauvage. Dans le sud du pays, nous avons un parc naturel qui a la concentration de léopards la plus importante, la plus intense au monde. Et donc, c'est important, bien sûr, que l'on protège la faune, la flore et la faune, la belle faune, sorry, la belle faune et flore sri-lankaise.
D'accord, donc réconciliation, mais aussi tourisme durable. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission, Patrick. On vous souhaite un bon duathlon alors sur l'île resplendissante.
Merci Adrien, et vraiment c'était plaisir de parler à Sandia aussi, Maud, Catherine, Marianne, et j'espère quand je rentre en Belgique, bien sûr, de vous retrouver au Ravel.
Puis moi, je viens vous visiter, hein,
Oui,
au Sri Lanka, là.
On sera plusieurs, alors.
Voilà, je crois que Catherine Tonero, Maud Stenbach et Maria Mallard se feront un plaisir d'aller vous visiter sur place. Merci, Sanira.
Merci à vous.
Et merci aussi à Paul Michel qui réalise cette émission. La semaine prochaine, c'est la foire du livre, hein, vous le savez. Nous recevrons, nous, le professeur Mitiku Belachev qui viendra nous présenter son ouvrage « Le berger devenu chirurgien ». Et nous serons en duplex avec Pascal Johannes qui dirige le PAM, le Programme Alimentaire Mondial à Addis Abeba en Éthiopie. Dans un instant, sur la première, les décodeurs. Bonjour Alain Gerlache.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, on va parler d'amour. d'amour.
Mais oui, c'est la Saint-Valentin, on va parler d'amour 2.0. Hein. L'amour à l'ère du web, les sites de rencontres, les applis. Il y a des choses très belles qui se déroulent. Hein. Des gens qui rencontrent leur moitié, parfois à l'autre bout du monde. Et puis alors, parfois, il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser. On va essayer de trier tout ça.
Ce sera décodé dans quelques instants après le journal de 10h. Excellente émission, Alain.
Merci, Adrien.
En radio 10h05 et en télé 11h15. Dans quelques instants, sur la première, le journal de 10h.
La première, podcast.